Je vais vous présenter un des travaux que nous avons effectués qui s'intitule « Validation de l'utilisation épidémiologique du PMSI en obstétrique ». En guise d'introduction, dans un contexte scientifique où les morts maternelles ne représentent finalement que la partie la plus visible du spectre des complications obstétricales, et où on sait que ces morts maternelles, ces décès, ont une incidence qui diminue d'année en année, nous avons voulu nous intéresser aux situations en amont de ces décès maternels, c'est-à-dire aux situations, à tous les événements graves qui mettent en jeu le pronostic vital des femmes, qui sont souvent rassemblées sous le terme de morbidité maternelle sévère. Nous aimerions estimer la fréquence de la morbidité maternelle sévère en France, et pour cela, nous aurions voulu disposer d'une cohorte pour pouvoir suivre des femmes enceintes pendant toute la grossesse et pouvoir compter le nombre de patients qui présentent des événements graves qui mettent en jeu leur pronostic vital. Mais nous ne disposons pas de cette cohorte, alors nous sommes aperçus que les femmes, les mères principalement, quand elles sont enceintes ou ayant juste accouché, rencontrent systématiquement les établissements de santé et encore plus en cas de pathologie grave. Dans les hôpitaux, on sait que les données hospitalières sont recueillies en routine et sont standardisées au niveau national. Nous sommes donc dit que le PMSI pouvait être une source potentielle d'informations pour estimer la fréquence de la morbidité maternelle sévère en France. Le problème, c'est qu'en obstétrique, les données du PMSI n'avaient jamais été validées en France. C'est donc ce à quoi nous nous sommes attachés. Donc l'objectif de notre travail est de valider les diagnostics et actes relatifs à la morbidité maternelle sévère enregistrés dans le PMSI. Pour cela, nous avons travaillé avec 4 centres hospitaliers universitaires, les centres hospitaliers de Lille, de Caen, de Cochin à Paris et de Grenoble. Nous avons monté un groupe de travail qui comprenait des cliniciens, donc des médecins des services de gynécologie obstétrique, mais aussi des médecins de département d'information médicale. Nous en avions des professionnels qui étaient à la base du codage et aussi en amont du codage. Nous avons sélectionné les séjours qui s'intéressaient aux événements maternels morbides sévères. Nous avons donc sélectionné les séjours des femmes en âge de procréer, dont la date de sortie était comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007, dont le diagnostic principal ou associé comporte un code O, chapitre O, c'est le chapitre obstétrical de la CIM-10, ou un code Z35, 37 ou 39, qui sont des codes marqueurs des séjours de grossesse, accouchement et postpartum. Postpartum, c'est ce qui suit l'accouchement. Nous avons donc voulu sélectionner des séjours qui comportaient au moins un des événements maternels morbides sévères les plus graves, ceux qui mettent le plus souvent en jeu le pronostic vital des patientes. Nous avons sélectionné d'une part dans la littérature et aussi avec un groupe d'experts européens. Et nous avons retenu 2 diagnostics, l'éclampsie et l'embolie pulmonaire. L'éclampsie, c'est une maladie hypertensive due à la grossesse où la patiente convulse. Nous avons retenu 4 actes pratiqués dans le cadre d'hémorragie de la délivrance, embolisation, hystérectomie c'est ablation de l'utérus, et ligature des artères hypogastriques et des pédicules vasculaires utérins. Nous avons aussi retenu dans notre algorithme 2 marqueurs de gravité qui sont les suppléments réanimation et les suppléments soins intensifs. Nous avons voulu confronter les séjours que nous avons repérés dans le PMSI qui comportaient un événement grave dû à l'état de grossesse, et nous avons confronté aux dossiers médicaux des patientes. Le gold standard, la référence, c'était le dossier médical source. Nous avons utilisé les bases de données informatisées pour aller rechercher les faux négatifs. Alors pourquoi ? Parce qu'on on a sélectionné près de 31 000 accouchements. C'était pour nous très difficile d'ouvrir 31 000 dossiers. Nous sommes donc passés par les bases de données informatisées qui étaient disponibles dans les 4 centres hospitaliers. Nous avons donc mené quelques analyses de sensibilité, de spécificité, valeurs prédictives positives et négatives. En fait, avec cette analyse, nous cherchions, à savoir si les patients qui avaient réellement vécu un événement grave, est-ce que cet événement était bien retranscrit dans le PMSI ? Et inversement, quand on avait un événement repéré dans le PMSI, est-ce que dans le dossier, la patiente avait vraiment vécu cet événement grave ? Voici donc les quelques résultats que je vais vous présenter. Dans la colonne de gauche, donc événement dans le PMSI, vous pouvez voir ici les événements que nous avons repérés dans le PMSI des 4 centres hospitaliers sur les 2 années que nous avons étudiées. Et donc vous voyez qu'il y a 84 éclampsies, 31 embolies pulmonaires, 72 embolisations, etc. Dans la colonne de droite, vous sont présentés les vrais positifs. Vrais positifs, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire que les patientes, en fait, on prenait le séjour repéré dans le PMSI, donc une éclampsie par exemple, et on allait vérifier dans le dossier de la patiente si cette patiente avait réellement eu une éclampsie. C'est ce qu'on appelle les vrais positifs dans notre étude. Et en fait, on se rend compte que pour le cas des diagnostics d'éclampsie, seuls 17 sur les 80 cas repérés dans le PMSI étaient réellement des éclampsies. Toutes les autres, donc les 67 autres, correspondaient à des hypertensions isolées, des protéinuries isolées, parfois des pré-éclampsies sévères, mais la patiente n'avait jamais convulsé dans 67 cas. Si on regarde par exemple le cas d'un acte, l'embolisation, 72 embolisations repérées dans le PMSI et réellement 72, les 72 étaient réellement des embolisations. Voilà. Concernant les propriétés intrinsèques du PMSI, donc les calculs de sensibilité et valeurs prédictives positives que je vais vous présenter ici, donc on s'aperçoit que comme les éclampsies présentaient 67 faux positifs, la valeur prédictive positive est donc, n'est donc pas bonne puisqu'elle atteint 20%. Pour les embolisations, vous vous souvenez, 72 embolisations repérées dans le PMSI, 72 qui étaient confirmées dans le dossier, donc on a une valeur prédictive qui est haute, c'est la troisième ligne, valeur prédictive haute de 100%, mais par contre on se rend compte que la sensibilité n'est pas très bonne. Alors pourquoi? Parce que quand on est allé rechercher les faux négatifs, c'est-à-dire quand on a regardé tous les dossiers informatisés pour rechercher toutes les embolisations, on s'est aperçu qu'il y avait des embolisations qui étaient bien écrites dans les dossiers, mais qui étaient mal retranscrites dans le PMSI. Alors pourquoi je dis mal retranscrites? C'est parce que comme vous avez vu au début, quand je vous ai présenté l'algorithme, je vous ai parlé d'actes pratiqués dans le cadre de l'hémorragie du postpartum. Et il y a un code très spécifique pour l'embolisation dans ce cadre-là. Or, les embolisations que nous avons retrouvées et que nous avons identifiées comme faux négatifs étaient en fait bien transcrites dans le PMSI, mais pas avec le code spécifique de l'hémorragie de la délivrance, alors que ces embolisations avaient été pratiquées pour pallier à une hémorragie de la délivrance. Donc c'était en fait des erreurs de codage. Voilà pourquoi on a une sensibilité qui n'est pas bonne. Quand on regarde par centre, on se rend compte que les centres 1 et 2 ont de très bons résultats concernant leur PMSI. Le centre 3 a une sensibilité de 51%. C'est dans ce centre qu'on avait repéré la majorité des problèmes d'embolisation qui étaient mal codés. Et dans le centre 4, on repère une valeur prédictive positive de 57%. C'est dans ce centre qu'on avait vu la majorité des problèmes de surcodage d'éclampsie. Toutes les spécificités et valeurs prédictives négatives étaient toutes supérieures à 99% dans les deux tableaux. Quand on va un peu plus loin et quand on essaye d'aller rechercher vraiment ce qui se passe dans les faux négatifs, on se rend compte que l'origine des faux négatifs, dans 5% des cas, tout simplement, les actes ont été faits. Ils existent dans le dossier de la patiente, mais ils ne sont pas codés dans le PMSI. Dans 5% des cas seulement. Dans 95% des cas, le problème des faux négatifs concernant les actes, c'est exactement ce que je vous expliquais juste avant, c'est des problèmes de... En fait, les actes sont transcrits, mais ne sont pas codés avec les codes spécifiques de la maladie. Donc on s'est dit que finalement c'était des erreurs qui étaient presque rattrapables, et donc on a voulu voir ce que ça donnait si on essayait de rattraper ces erreurs, et on considérait que ces erreurs, finalement, on pouvait les intégrer comme des codes marqueurs d'embolisation d'hémorragie du postpartum quand c'était bien associé dans le séjour avec un diagnostic d'hémorragie du postpartum. Et on regarde donc les résultats corrigés pour les embolisations. Vous voyez 56,2% de sensibilité, ça c'est ce que je vous ai présenté dans le tableau précédent. Et quand on utilise cette correction avec les codes rattrapables, ces codes qui sont rattrapés, on arrive à une sensibilité de 95,3%. Pour les hystérectomies, on passe de 74,2% à 100% de sensibilité. En discussion, alors d'une part pour les diagnostics, on se rend compte, nous, dans notre étude, quand on prend les diagnostics, ben, il y a une vraie tendance au surcodage. Souvenez-vous des 67 éclampsies qui finalement n'en étaient pas. C'était des pré-éclampsies peut-être sévères, mais qui étaient largement surcodées. Nous, on l'explique par principalement deux facteurs qui sont démontrés dans la littérature internationale. C'est un, le large panel d'acteurs qui participent au codage du PMSI. Il y a une grande hétérogénéité de compétences quand on va sur le terrain et quand on voit ce qui se passe dans les services. Et cette hétérogénéité de compétences influence forcément la qualité du PMSI. Il faut savoir aussi, je pense que vous le savez tous, que le système de tarification est un vrai incitatif aux excès de codage. Concernant les actes, dans notre étude, nous nous rendons compte qu'en fait les actes existent mais ne sont pas très très bien codés. Il y a des erreurs de codage. Ces erreurs peuvent être dues à la précision des codes CCAM. C'est vraiment Les CoSSM, c'est un codage en plus. Enfin, le codage des actes, c'est un codage assez lourd et c'est chronophage. Et quand on interview en fait les cliniciens, ils nous disent que c'est tellement lourd que ils ont plutôt tendance à coder le premier acte qui ressemble un peu à ce qu'ils ont fait, à ce qu'ils ont pratiqué réellement. Il y a un problème aussi de thésaurus qu'on a pu remarquer dans les services, et ça, c'est aussi confirmé dans la littérature internationale, c'est que les thésaurus peuvent tout à fait faciliter le codage au quotidien pour les actes pratiqués en routine dans un service. Mais par contre, pour les situations rares et sévères comme celles qu'on a étudiées, ce n'est pas un bon outil puisque les praticiens vont coder donc le code qui ressemble à peu près à leur acte, mais qui n'est pas spécifique, qui n'est pas vraiment le plus précis, qui décrira bien la pathologie qu'ils ont pris en charge. En conclusion, nous voulions dire que si le PMSI n'était pas validé, puisqu'on sait que dans les services, il y a des petites études qui sont réalisées parfois à partir des données du PMSI, sans aller forcément rechercher la validation de ces données. On sait que si ces études sont basées sur des données erronées, les résultats sont faux, les conclusions et les décisions qui seront prises à l'issue de ces travaux seront donc inexactes, et on n'observera pas d'amélioration de la qualité des soins ni de la santé des femmes. Pour une étude à partir du PMSI, ce qu'on conseillerait, nous, c'est de tenir compte des variations intercentres, surtout de chercher à valider les données avant de les utiliser et de distinguer les actes, des diagnostics, des suppléments de réanimation de soins intensifs, puisque vous avez vu qu'on avait des résultats très différents selon les catégories. En conclusion, pour nous, en obstétrique, on aurait tendance à vouloir nous dire qu'il est possible de prendre la base PMSI et d'imaginer estimer la fréquence des événements maternels morbides seulement si on prend des définitions basées sur des actes et des suppléments de réanimation de soins intensifs. Mais à l'heure actuelle, il nous paraît impossible d'utiliser les diagnostics pour aviser d'une surveillance. En perspective, pour améliorer la qualité du PMSI, il faudrait peut-être, alors ça c'est des grands discours, mais peut-être généraliser les contrôles de qualité des données au sein des services. Pourquoi pas implanter dans les logiciels de codage des interfaces qui permettent en fait de vérifier que le diagnostic qu'on code, j'imagine ça, en fait on code un diagnostic, hop, une fenêtre apparaît et nous propose par exemple un signe pathognomonique de la pathologie, et si la patiente a effectivement bien convulsé dans le cas d'une éclampsie, alors le code est accepté, pourquoi pas. Ouais, et puis, en dernier, peut-être un peu plus former les praticiens au codage. Je voulais d'abord remercier tous les gens qui ont travaillé, qui ont participé à ce travail, et en particulier Mme Quentin qui est ici, et puis remercier l'IRESP pour le financement. Merci de votre attention.
Alors, je voulais remercier les départements, les médecins de Guine, des départements de la Côte d'Or et du Doubs, ainsi que les registres de ces deux départements, pour nous avoir aidés dans la réalisation de cette étude qui avait pour objectif d'estimer l'intérêt d'utilisation de la base PMSI pour l'estimation de l'incidence du cancer du sein, dans ces deux départements. Alors, nous n'avons pas pu travailler sur la base nationale, même si elle est disponible, parce que l'objectif pour nous, c'était de pouvoir croiser individuellement, patient par patient, les données PMSI avec les données registres pour faire cette validation. Or, il n'était pas possible d'appliquer l'algorithme FOIN sur les données du registre. Donc, nous sommes retournés dans chaque établissement et nous avons collecté, en plus des données PMSI, des données d'identité, nom, prénom, date de naissance, qui ont été anonymisées. Et nous avons bien sûr rencontré des difficultés, notamment dans le Doubs, où les données antérieures à 2005 n'étaient pas disponibles dans plusieurs établissements du fait d'un changement de système d'information. Donc en pratique, dans chaque établissement, on a pu extraire les données PMSI qui nous intéressaient en fonction du lieu de résidence, c'est-à-dire le département. La période d'hospitalisation, on avait deux années qui nous intéressaient, 2004 et 2005, mais on voulait pouvoir revenir en arrière, et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et puis, les diagnostics, principaux, reliés et associés de cancer du sein. Donc, pour les registres, les données qui étaient disponibles à l'époque étaient les cas incidents des cancers du sein, pour les années 2004 et 2005. Et donc, nous avons pu, à partir de ce numéro anonyme, construit à partir du nom, prénom, date de naissance, chaîner les hospitalisations d'un même patient et sélectionner deux types de fichiers, l'un à partir du premier algorithme fondé sur les diagnostics Donc, la sélection des patients, donc, c'était tous les patients qui avaient été hospitalisés au moins une fois, avec un résumé comportant un diagnostic de cancer, donc aussi bien principal, relié ou associé, et un acte thérapeutique, c'est-à-dire une exérèse de la tumeur. Pour le deuxième algorithme, on voulait être un peu plus large, c'est-à-dire ne pas être limité au cancer opérable, et donc pouvoir repérer sur les diagnostics, mais exclure les cas prévalents en chaînant avec les hospitalisations des années antérieures, donc jusqu'en 1999, de façon à pouvoir exclure les patients qui avaient été déjà hospitalisés pour ce cancer. Alors, cette étude, donc une fois qu'on a pu construire nos deux fichiers donc pour chacun des algorithmes, nous avons pu croiser le fichier PMSI avec le fichier registre, donc grâce à une méthode de chaînage probabiliste, donc qui permet de pallier les difficultés de saisie éventuellement de nos prénoms, date de naissance, même lorsque les données sont anonymisées. Donc on a pu construire le tableau que vous voyez et donc estimer la sensibilité et la valeur prédictive du PMSI en prenant pour référence le registre. Alors ce que l'on voit sur la Côte d'Or, où on a pu appliquer les deux algorithmes, déjà c'est une certaine stabilité, il n'y a pas vraiment de variation, en tout cas une variation qui va dans un sens ou dans l'autre, mais pas dans un seul sens, entre 2004 et 2005. Par ailleurs, on a pu remarquer que la sensibilité, donc qui est de l'ordre de 77-78% pour l'algorithme 1, est bien meilleure avec l'algorithme 2, donc où elle est pratiquement 10% au-dessus, puisqu'elle est de l'ordre de 87%. Alors, ce gain en sensibilité, donc qui est lié essentiellement à une amélioration des faux négatifs, hein, puisqu'on en a 54 au lieu de 89, et des vrais positifs, c'est fait au détriment des faux positifs, puisqu'on en a 3 fois plus, 336 au lieu de 106. Et donc, par conséquent, de la valeur prédictive positive qui n'est plus que de 50% environ. Dans le Doubs, nous n'avons pu appliquer qu'un seul algorithme, puisque les données antérieures à 2005 n'avaient pu être extraites de manière systématique. Donc on constate d'emblée une baisse de la sensibilité, enfin une estimation plus faible dans le Doubs. On avait 77% tout à l'heure pour l'algorithme 1, et là on est à 69% donc pour l'année 2005. Donc une baisse de la sensibilité qui, si on l'examine un petit peu par tranche d'âge, n'est pas du tout la même selon la tranche d'âge. C'est-à-dire qu'on a une sensibilité qui est très proche de celle de la Côte d'Or sur les moins de 75 ans, et qui par contre est vraiment qui est de 20% en dessous, donc pour les plus de 75 ans, 20% en dessous de la Côte d'Or pour la même tranche d'âge, et 20% en dessous, quasiment 20% en dessous des moins de 75 ans, donc pour le même département. Donc on voit qu'il se passe quelque chose chez les plus de 75 ans, et donc on peut se demander s'il y a eu des problèmes de recueil, de codage, ou si c'est un problème, si c'est plutôt une question d'être moins interventionniste chez les patients plus âgés dans un département un peu plus rural. Alors, la validation donc par retour au dossier médical, puisque l'établissement avait gardé la correspondance entre le numéro anonyme et le numéro de dossier, montre que on voit bien 89, disons que l'essentiel des erreurs, si on peut dire, est lié au cas prévalent des cancers qui sont diagnostiqués avant 2005 et qui ne sont pas, alors soit repérés la même année dans le registre parce qu'il y a un décalage diagnostic-hospitalisation, soit n'ont pas pu être, retirés par notre chaînage parce que l'hospitalisation était antérieure à la période d'étude, c'est-à-dire antérieure à 2004 si c'était pour l'algorithme 1 ou antérieure même à 99 si c'était pour l'algorithme 2. Donc on voit bien ce problème des cas prévalents qui ne sont pas si faciles que ça à éliminer même quand on a un chaînage de plus de 5 ans. Et puis, évidemment, des erreurs de codage, mais des erreurs de codage qui sont facilement explicables puisque lorsqu'un médecin code avant le retour de l'examen anatomopathologique, il n'a pas forcément le bon diagnostic et pas toujours la possibilité de le corriger. Par ailleurs, nous avons également observé quelques erreurs, notamment de code postal, qui sont liées au fait que les patients soit sont transférés d'un établissement donc, du département, soit fournissent une adresse, je pense par exemple dans mon établissement, fournissent l'adresse d'une famille proche et pas leur véritable adresse. Donc pour ce qui concerne les faux négatifs, l'explication essentielle, donc, c'est l'absence d'hospitalisation pendant cette année-là. Donc le PMSI était dans l'impossibilité de retrouver ses patients, puisqu'ils n'avaient pas été hospitalisés. Alors soit c'est le décalage diagnostic-hospitalisation, c'est-à-dire que l'hospitalisation va survenir un petit peu après, par exemple en début 2006, si le diagnostic a été fait en fin 2005, soit il n'a pas été hospitalisé du tout, en tout cas dans ce qui est mentionné par le registre. Donc on voit bien que la difficulté du PMSI de retrouver ses patients. Et puis pour ceux qui restent, l'hospitalisation a bien eu lieu, mais il y a eu une erreur de codage ou un défaut d'exhaustivité, ou bien, et là c'est plus marginal, le patient est hospitalisé hors département. Donc les résultats que nous avons obtenus sur les années 2004 et 2005 apparaissent meilleurs que ceux qui avaient été obtenus par Chantal Couris, Anne-Marie Schott, je ne vais pas citer tous les auteurs parce que ça serait long, donc dans le département de l'Isère. Alors les explications, je ne suis pas sûre que ça soit bonne, hein, qu'on pourrait émettre, c'est peut-être déjà une amélioration de la qualité avec le passage à la tarification d'activité. Peut-être aussi un effet algorithme, puisqu'on ne s'est pas limité au diagnostic principal, mais aussi au diagnostic relié et au diagnostic associé. Alors c'est sûr qu'avec notre deuxième algorithme, là on gagne encore plus, hein, on l'a vu, en sensibilité, mais on a le souci de ne pas pouvoir exclure vraiment tous les cas prévalents. Et donc on voit bien que dans les cancers, comme je dirais à bon pronostic finalement, comme le cancer du sein ou à évolution longue, si on veut vraiment exclure les cas prévalents, il faut pouvoir chaîner sur plus de 5 ans. Et donc c'est sûr que je voulais insister sur l'importance de ces validations par retour de dossier médical, donc qui peuvent être faites sur plusieurs maladies. Donc là il y a un projet notamment pour les accidents vasculaires cérébraux au niveau national avec Grenoble, donc j'en profite pour les citer. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.
Alors donc, je vais vous présenter un travail collaboratif qui a été réalisé en Rhône-Alpes avec un groupe multidisciplinaire constitué de dimistes, d'épidémiologistes et de statisticiens. Donc il s'agit de l'estimation départementale de l'incidence du cancer en France en 2007 à partir des données des registres et des données du PMSI. Donc on a étudié quatre localisations. Donc en France, il n'existe pas de recueil national des cancers. Il existe donc des registres départementaux. Et donc la couverture de ces registres correspond à entre 15 et 20% de la surface nationale. Donc il n'est pas possible d'avoir un recueil des données nationales. Donc le réseau des registres nationaux, le réseau des registres départementaux réalise des estimations donc nationales en utilisant une méthode qui utilise le rapport d'incidence sur mortalité, enfin qui estime le rapport d'incidence sur mortalité dans la zone où il y a des registres et l'applique ensuite à la zone au reste de la France avec les données de mortalité. Donc cette méthode n'est pas utilisable pour les estimations départementales, car le rapport incidence sur mortalité n'est pas applicable au niveau des départements. Il existe une forte hétérogénéité spatiale, due notamment aux pratiques médicales, mais aussi aux politiques de prévention qui diffèrent selon les départements et qui diffèrent aussi selon l'adhésion des populations à ces politiques. Donc, il existe des données nationales qui ont un détail départemental. Ce sont les données donc du PMSI. Et le but de l'étude est de savoir s'il est possible d'utiliser ces données du PMSI en remplacement des données de mortalité afin de réaliser des estimations départementales. Alors, je vais vous présenter la méthode assez rapidement. enfin le principe qui est assez simple. Donc dans les départements avec les registres, on a une source de données qui est le registre, donc, et une source de données qui est le PMSI. On va faire une agrégation des données par département et par classe d'âge. Et donc, on va calculer pour, dans chaque département et pour chaque classe d'âge un rapport PMSI sur registre. Un modèle va permettre d'estimer le rapport moyen donc par classe d'âge, et ce rapport sera ensuite appliqué dans les départements sans registre. Donc, c'est assez simple. On va donc multiplier l'inverse du rapport par le nombre de cas PMSI, et on obtiendra donc par classe d'âge un nombre de cas incidents estimés. Alors la modélisation, elle est réalisée grâce à un modèle de Poisson à effet multiplicatif qui tient compte de l'âge. Donc on estime les données du registre sont supposées exhaustives, donc elles sont considérées comme un gold standard. Et les données du PMSI seront considérées comme une valeur approchée. Donc on estimera les valeurs du PMSI en modélisant donc la relation entre le nombre de cas des registres que l'on multiplie à un facteur qui tient compte de la classe d'âge. Et donc en inversant cette relation, on obtiendra donc cas chapeau IJ, donc qui est le nombre de cas incidents dans les registres par classe d'âge, et est égal donc au nombre de cas dans les départements du PMSI, multiplié par un facteur qui dépend de la classe d'âge. Donc le protocole est réalisé en quatre étapes. La première étape qui est l'extraction des données donc du PMSI et des registres. La deuxième étape permet l'ajustement d'un modèle aux données. Ensuite, on va valider ce modèle par une validation croisée. Et ensuite, si le modèle est correctement validé, en fait, on va pouvoir réaliser des estimations départementales. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter donc l'extraction des données du PMSI. On a testé deux algorithmes. Donc, un premier algorithme simple qui sélectionnera les séjours donc avec un diagnostic principal de cancer. Donc je vais vous présenter plus spécifiquement les résultats pour le cancer du sein. Et donc un second algorithme qui sélectionnera les séjours dont le diagnostic principal est le cancer et avec un acte chirurgical associé à ce cancer. Donc une fois que nous avons sélectionné les séjours, ensuite on utilise l'identifiant patient anonyme pour identifier les patients et donc regrouper tous les séjours d'un même patient. Et donc on va pouvoir travailler sur l'entité patient. C'est une entité qui est moins susceptible d'être influencée par la variabilité du codage au niveau des établissements. Donc avec l'algorithme 1, on obtient donc 59 116 cas de cancer du sein, et avec l'algorithme 2, on obtient 52 478. Donc l'extraction des données des registres de cancer. Donc à partir de tous les registres, en fait, on va sélectionner les départements avec registres dont le taux de chaînage de l'identifiant patient anonyme est supérieur à 95%. Donc à partir des 10 registres potentiellement utilisables, on en a sélectionné donc plus que 6. Et une fois que ces départements étaient sélectionnés, on a sélectionné sur la topographie du cancer, notamment pour le cancer du sein qui était C50. Et donc on a sélectionné 3946 cas. Donc, pour valider le modèle, on va réaliser une validation croisée. C'est assez simple. Donc, dans tous les départements avec registre, on va sélectionner tous les départements sauf un. Cette sélection de département va permettre de générer un modèle et d'estimer, et donc de prédire les cas du département qui a été exclu. On va donc pouvoir ensuite comparer les cas observés, donc dans le registre, et les cas estimés à partir du modèle généré par les autres registres. Donc ensuite, on va comparer donc ces effectifs en classe d'âge et en total. Donc on voit que pour l'algorithme 1, donc oui, on fera des tests Ki2 avec un seuil de 5% pour un risque alpha. Donc pour l'algorithme 1, il n'y a pas de différence significative entre les cas observés et les cas prédits. Alors quel est l'algorithme 2? On observe dans deux départements qu'il n'y a pas concordance entre les observés et les attendus. Voilà. Donc, une fois que le modèle a été validé, on va donc pouvoir créer des cartes avec les estimations. Donc, ce sont des cartes qui sont quand même à prendre avec prudence, car nous sommes encore à une phase de faisabilité. Donc, les cartes sont donc représentées par des ratios standardisés d'incidence, où les zones sombres correspondent à une surincidence et les zones claires correspondent à une sous-incidence. En discussion, donc on peut dire que la qualité du chaînage de l'identifiant passé anonyme est primordiale pour notre étude, car elle permet d'identifier les patients, et sans ça, il est impossible de travailler. Avec la mise en place de la T2A, en fait, cette qualité du chaînage a fortement progressé, et en 2007, elle est de l'ordre de 99%. Donc on peut imaginer que les études à venir seront encore meilleures que ce qui a été fait. En ce qui concerne l'élaboration des algorithmes, donc les données du PMSI se limitent donc au séjour hospitalier. Donc on ne pourra pas étudier les localisations cancéreuses superficielles comme les mélanomes où les gens ne vont pas à l'hôpital. Et en utilisant l'algorithme 2, donc on est aussi limité par les actes chirurgicaux. Voilà. Pour conclure, l'algorithme 1, avec les données que nous avons utilisées et notre méthodologie, sont donc plus adaptés à l'estimation de l'incidence au niveau département. Lors de nos analyses, nous supposons que pour un âge donné, le rapport K-PMSI sur K-registre est homogène d'un département à l'autre. C'est une hypothèse forte qui nous est impossible de vérifier au niveau de tous les départements, et on ne peut le vérifier seulement au niveau des départements avec registre. Et enfin, la méthodologie nécessite des effectifs importants pour certains cancers qui ont une faible incidence. Il serait nécessaire de regrouper plusieurs années entre elles pour pouvoir calculer des incidences. Donc pour conclure, si on arrive à avoir un chaînage exhaustif du PMSI, qui a l'air d'être le cas, et qu'on réussit à réaliser une extraction adaptée de ce PMSI, on peut donc générer un modèle qui sera validé, et alors on pourra donc calculer une incidence départementale. Je peux émettre tout de même une remarque. Il est toutefois donc les estimations départementales resteront toujours soumises à une hypothèse fondamentale d'homogénéité des pratiques de codage du PMSI dans les différents établissements. Voilà.
La fracture du col du fémur est une pathologie fréquente qui est une plus grave des complications de l'ostéoporose, puisque c'est pratiquement la seule complication de l'ostéoporose qui peut entraîner la mort par l'alitement, l'intervention, etc. C'est une pathologie qui, comme vous le savez, est très fréquente chez le sujet âgé, qui est d'autant plus fréquente que les sujets vieillissent, et qui est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes, bien qu'elle existe également chez les hommes. La loi de santé publique, d'ailleurs, le remarque, puisque dans son objectif 82, elle a fait de la prévention de l'ostéoporose son objectif, et la réalisation de cet objectif est calculée par la diminution de l'incidence des fractures du col du fémur. Alors, analyser les fractures du col du fémur chez les gens de plus de 55 ans ou plus, on verra plus tard qu'avant 55 ans, c'est un tout autre problème. C'est possible avec le PMSI parce que le traitement d'une fracture du col du fémur est pratiquement toujours, ou on peut dire que son traitement est toujours hospitalier, et que les seuls patients non hospitalisés, ce sont des gens qu'on laisse en abandon de traitement. L'avantage du PMSI aujourd'hui, c'est qu'on peut analyser sur une longue durée. Et on peut analyser en partant des caractéristiques des patients, en partant des traitements et en regardant également la mortalité hospitalière. La question à laquelle nous nous sommes heurtés très rapidement est le problème de la sélection des RSA. Et il y a ici au moins un orthopédiste qui nous a aidés dans ce travail. On était parti de l'évolution des séjours, en partant du fait que le chaînage par patient était jusqu'en 2006 inférieur à 90%, et qu'avoir 10% de chaînage impossible était compliqué pour calculer le nombre de patients. On a sélectionné les RSA qui comprenaient un diagnostic principal de fracture du col de fracture de l'extrémité supérieure du fémur, soit S72-0, soit S72-1, soit S72-2. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on a quand même omis un certain nombre de patients. Ce sont les patients qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas un diagnostic principal de fracture du col du fémur, mais ont un diagnostic associé de fracture et ont un acte qui est spécifique de fracture de l'extrémité supérieure du fémur, comme la mise en place d'une prothèse céphalique. Pour ceux qui ne savent pas bien, ça s'appelle une prothèse de Moore quand on est petit, et ou une ostéosynthèse de la métaphyse supérieure du fémur qui n'a pas beaucoup d'autres indications que la fracture du col du fémur. Alors après, on s'est retrouvé avec un certain nombre de malades dont on s'est demandé s'il fallait les exclure ou pas. Alors on a exclu les patients de moins de 55 ans. En effet, en dessous de 55 ans, il y a 4500 fractures du col du fémur en France. C'est en grande majorité des hommes, et ce sont, dans l'épidémiologie qu'on connaît de la fracture du col du fémur, quand on lit les textes, ce sont essentiellement des polytraumatisés, et ce n'était pas exactement le problème. On a exclu les patients qui ne résidaient pas en France, métropolitaine ou dans le département d'outre-mer. Autrement dit, on s'est intéressé aux résidents. On n'a malheureusement pas récupéré les résidents qui étaient allés se faire traiter à l'étranger, et ça, c'est pratiquement impossible. Et puis, alors, il y avait des situations particulières, dont certaines sont assez simples. Les prestations inter-établissement ont été éliminées, les séances, bien sûr, parce que je pense que ce sont des erreurs de codage, et puis les séjours dans les hôpitaux locaux et les établissements de santé à activité MCO marginale, parce que leurs données ne sont pas du tout exhaustives et que ça mettait plus de bruit que ça n'apportait d'informations. Car c'est vraiment toujours le problème, quand est-ce qu'on met plus de bruit, enfin, toutes les interventions préalables l'ont montré, quand est-ce qu'on met plus de bruit et quand est-ce qu'on met plus d'informations. Il restait des situations particulières. Alors, j'insiste pas sur les fractures sur tumeur ou les fractures sur matériel qui sont un problème totalement autre que le problème de la fracture du col du fémur, pour m'intéresser plus au séjour qui avait un diagnostic principal de FESF sans acte de traitement. En fait, il y en avait beaucoup plus que je ne le supposais. Et alors là-dedans, quand on regarde, il y a un certain nombre de patients qui ont des modes d'entrée, modes de sortie, mutation ou transfert de ou vers le MCO, et qui sont vraisemblablement des gens qui ont passé un très court séjour dans un établissement pour être transférés dans un autre, ou à l'inverse, des gens qui, ayant été opérés, sont partis faire leur convalescence dans un établissement qui est classé MCO, et où le clinicien que je suis, je peux vous le dire, par paresse met fracture du col du fémur, alors qu'il l'aurait dû mettre surveillance après acte chirurgical. Le deuxième cas, ce sont les patients qui sont classés dans des GHM autres que les fractures du col du fémur, que ceux du traitement des FESF et qui ne sont pas décédés. Il y a là-dedans un certain nombre de polytraumatisés. Et puis, nous avons éliminé également les séjours de moins de 24 heures lorsqu'il n'y avait pas de décès, parce qu'on a considéré qu'on avait le droit d'avoir une fracture du col du fémur et de mourir le jour de son hospitalisation de sa fracture du col du fémur, et on ne voulait pas éliminer, au contraire, ceux qui mouraient. Alors, une fois qu'on a fait tout cela, eh bien, on a obtenu au départ, je vous ai mis les chiffres de 98 et de 2007, on les a pour toutes les années, mais je pense que vous n'auriez pas aimé que je vous montre tout. On avait 79 278 séjours initiaux en 98 et 88 020 en 2007. Et en fait, là-dedans, il y a 5% de patients qui n'avaient pas de diagnostic principal de FESF, mais qui avaient un diagnostic de fracture du fémur en diagnostic secondaire avec un acte chirurgical spécifique. Et si on regarde le total des exclusions, il y en a 8500 dans un cas, 10700 dans l'autre. C'est à peu près 11 à 12% de la population initiale. Là-dedans, il faut compter que vous avez la moitié de gens qui sont des 55 ans, enfin à peu près la moitié qui sont des 55 ans ou moins, puisqu'on a vu qu'il y en avait 4500. Ce qui fait que, au bout du compte, quand on ne pondère pas les séjours à cause du manque d'exhaustivité des bases PMSI jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on obtient les chiffres de 70 733 et 77 285 séjours sans pondération. Et vous voyez qu'avec pondération, eh bien, en 2007, ça vous confirme ce que vous savez, c'est que la pondération est tellement bonne que ce n'est plus la peine de pondérer. En revanche, en 1998, on a récupéré 4500 patients. Voilà. En 98, l'exhaustivité, elle était de 94%. Alors, après toutes ces attendues méthodologiques, qui ont été certainement le plus gros de notre travail, alors après, on a regardé les résultats. Les premiers résultats, c'est que le nombre de séjours a augmenté pour les hommes, mais que les taux ont diminué, et surtout pour les femmes. Le nombre de séjours pour les hommes a augmenté de 13%, et le nombre de séjours pour les femmes est resté stable entre 1998 et 2007. Il y a eu des variations entre-temps, mais elles n'ont jamais été très importantes. Ce qu'il faut quand même que vous sachiez, c'est qu'entre 1998 et 2007, le taux d'hommes dans la population très âgée a augmenté la population âgée de plus de 55 ans a augmenté de 1% par rapport à la population globale. C'est-à-dire qu'on a effectivement une population qui est un peu plus masculine. Je ne sais pas à quoi c'est peut-être dû à la diminution de la mortalité prématurée. Quand on regarde les taux pour 10 000, vous voyez qu'ils sont de 25,4% pour les hommes et qu'ils diminuent à 23,6%, ce qui fait une diminution de 7,3%, et que chez les femmes, patientes de 70 à 59,3, ça a baissé de 15,3%, soit deux fois plus que chez les hommes. Si on regarde maintenant en taux standardisé, bien vous voyez qu'on a la même évolution, avec des diminutions qui sont de 9,9% pour les hommes et de 17,5% pour les femmes, donc supérieures au taux brut. Cette diminution des taux, elle est sans doute expliquée par deux choses. La première, c'est la diffusion large du traitement de l'ostéoporose, avec en particulier l'apparition de nouveaux traitements, et puis un certain nombre d'actions pour prévenir les chutes des personnes âgées qui passent de la diminution des médicaments, qui n'est peut-être pas terminée, au conseil de vie. Vous avez ici l'évolution des taux standardisés. Alors, on a eu la possibilité d'utiliser deux enquêtes sur des échantillons représentatifs qui ont été faites en 1993, et c'est toute la zone en pointillé. Ce sont des échantillons représentatifs, ce ne sont pas des données exhaustives, et ce ne sont pas des données du PMSI. Vous voyez que, au-delà, ce sont des données PMSI qui sont en ligne continue. Les flèches, les traits verticaux, sont les campagnes INPES sur la prévention des chutes, et la taille, la largeur de la barre, tient compte de la durée de la campagne télévisée. Et vous voyez que vous avez trois périodes. Vous avez une période de stabilité qui va de 86 à 98, avec des variations qui est très difficile, en particulier chez les hommes, d'expliquer, parce qu'on est sur des échantillons, les hommes, il y en a très peu, je ne suis pas sûr qu'on puisse les interpréter. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe entre 98 et 2001, vous voyez une diminution chez les hommes comme chez les femmes qui est assez lente, et puis de 2001 à 2007, elle s'accélère. La diminution annuelle entre 98 et 2001 était de 0,91% par an, elle est passée à 2,48% après, et elle est supérieure chez les femmes que chez les hommes. C'est peut-être la preuve que les actions télévisées ont une incidence. Ici, les chiffres de mortalité, je n'ai aucune explication sur la bosse de la mortalité des hommes dans les années 2001-2002. Ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est que globalement, ça diminue un peu, ça diminuait d'un petit peu plus de 1%, et qu'en revanche, la mortalité des hommes est deux fois supérieure à celle des femmes, quelle que soit l'année, et ça, c'est quelque chose qui est connu dans les littératures sur la fracture du col du fémur. Alors, voilà, enfin, les résultats des patients. En 2007, le chaînage est fiable en MCO, avec 97% de numéro de patients corrects, et donc nous pouvons estimer qu'il y a 74 850 patients âgés de 55 ans ou plus qui ont eu une fracture de l'extrémité supérieure du fémur en 2007. Trois quarts d'entre eux sont des femmes. Ça donne une incidence brute qui est de 57,3 pour 10 000 femmes et de 22,9 pour 10 000 hommes. Alors, il y a une seule restriction à ce que je dis, c'est qu'en fait, on a le droit de se casser deux fémurs la même année civile. On sait dans la littérature que le risque de fracture du deuxième col du fémur est de 5% à 12 mois. Alors bon, comme tout le monde ne se fracture pas le 1er janvier, ils ne peuvent pas tous se fracturer. Mais voilà, il y a sans doute une petite surestimation. Comme tout cela, si vous voulez, avec toutes les la méthodologie un peu compliquée, ce qu'on pourrait appeler des manipulations de données pour essayer de nettoyer la base, on peut dire qu'il y a environ 75 000 fractures du col du fémur par an en France. Je n'irai pas beaucoup plus loin dans la précision. Qui traite les fractures du col du fémur? Eh bien, ce sont les hôpitaux publics et les hôpitaux apparentés aux services publics, que sont les PSPH. La part des hôpitaux, des établissements lucratifs, a diminué de façon constante. Elle était de plus de 30% en 1998. Elle est aujourd'hui aux alentours de 24%. En revanche, ça a été remplacé non pas tellement par les CHR, que vous voyez en vert, mais essentiellement par les hôpitaux généraux et les PSPH, dont la part de marché, si j'ose dire, a augmenté pour compenser cela. Ça correspond à peu près au changement, à la restructuration des urgences, avec l'apparition des SAU qui s'appelaient avant autrement. Quelle est la part des différents traitements? Alors là, on se heurte à quelque chose dont on a beaucoup parlé, qui est le changement de nomenclature, le changement de règles, etc. Le pourcentage des ostéosynthèses est stable à 50%. Le pourcentage des prothèses est assez stable, mais là-dedans, il y a deux catégories. Vous voyez que les prothèses totales, en vert moyen, ont diminué, alors que les prothèses céphaliques, en vert pointillé, ont augmenté. Pourquoi cela? Vraisemblablement pour deux raisons. La première, c'est que tant qu'on a été en CDAM, il était assez facile de coder des prothèses intermédiaires, qui est une prothèse céphalique, comme une prothèse totale. Aujourd'hui, avec la CCAM, c'est plus difficile. Deuxièmement, la période 98-2003 est aussi la période où les sociétés savantes d'orthopédie ont commencé à bien définir ce qu'il fallait faire dans une fracture du col du fémur, ce qui a donné lieu en 2007 à quelques publications de l'HAS qui dit bien qu'on ne peut mettre de prothèse totale que si les gens ont à la fois une fracture du col, une arthrose, un âge pas trop élevé et une mobilité suffisante. Dans les fractures du trochanter, il y a encore moins d'indications. Et c'est pour ça que j'explique que le taux de prothèse totale, enfin, c'est pour ça que je pense que le taux de prothèse totale qui diminue est la conjonction de ces deux choses. En revanche, en rose, vous voyez le taux de non-opérés, il est stable à 5%. Et quand on regarde ce que ces malades deviennent, eh bien, c'est sûr que quand vous regardez la mortalité dans les 10 premiers jours, c'est une mortalité qui est beaucoup supérieure. Je n'ai pas le chiffre en tête, je suis désolé, mais je ne suis pas sûr qu'il ne soit pas dans la publication. La mortalité précoce est beaucoup plus importante que pour les autres pays. Je ferai deux conclusions. La première est une conclusion méthodologique pour le congrès Adelphes et moi. C'est horriblement difficile et ça prend beaucoup de temps, et on l'a vu dans les communications précédentes, de sélectionner les séjours qu'on veut étudier. Le PMSI est une magnifique source de données épidémiologiques, à condition qu'on ne fasse pas du brut de décoffrage, parce que sans ça, on dit, je pense, n'importe quoi. C'est compliqué, surtout quand on veut arriver à des choses aussi précises que, comme on l'a vu dans d'autres, que l'incidence d'une pathologie par patient. Et donc, il faut essayer de sélectionner, de voir, de regarder, et puis après de faire quelque chose qui est une cote mal taillée entre trop et trop peu. Et puis la deuxième, eh bien, c'est à destinée de tout le monde. Le vieillissement, c'est important, mais l'impact du vieillissement sur l'incidence de la fracture du col du fémur, elle n'est pas aussi importante que le vieillissement, qu'on pourrait le penser, puisque ça a augmenté de 3% en 10 ans. Et ce résultat, et c'est la deuxième chose qui, moi, m'a tout à fait passionné, c'est qu'on a quand même quelques raisons de penser que les actions de prévention et les actions de santé publique et les actions de santé publique auprès du grand public ont peut-être un effet non négligeable. Je vous remercie.
Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Renin, je suis interne de santé publique au CHU de Lyon. Je vais vous présenter donc un travail qui a été proposée et supervisée par Antoine Duclos et Anne-Marie Schott durant mon stage au pôle d'information médicale, évaluation recherche des hospices civils de Lyon, et donc qui s'intéresse plus particulièrement aux algorithmes d'extraction des fractures d'extrémité supérieure à partir des bases PMSI. Donc pour reprendre un peu le contexte général, les pays industrialisés effectivement sont confrontés à un vieillissement global de leur population, et dans ce cadre-là, les décideurs sont très intéressés à suivre certains indicateurs relatifs aux problèmes posés en termes de santé publique, et les fractures de l'extrémité supérieure du fémur d'origine ostéoporotique sont l'un des principaux enjeux. D'ailleurs, pour rappeler, mon collègue tout à l'heure l'a évoqué, la loi de santé publique de 2004 aussi fixait un objectif de réduction de 10% de ces fractures, sans pour autant qu'on ait réfléchi aux outils de surveillance. Donc, effectivement, pour suivre l'incidence de ces fractures, il apparaît que le PMSI est un outil de prédilection du fait de sa réactivité et de son exhaustivité en France. Donc, la question finalement qui se pose, c'est de la fiabilité, de la représentativité de cet outil, et finalement, avec un problème de validation des algorithmes d'extraction à partir des bases PMSI, posé tout récemment par l'OFTUS dans une lettre adressée au JAMA en réponse à un article canadien publié quelques mois auparavant, dans lequel justement, par rapport aux conclusions, il disait « mais prudence ». Que savez-vous finalement de la représentativité de vos bases ? Donc, dans le contexte général de la littérature, on est parti du constat que, en prenant, en l'occurrence, des revues majeures, que deux écoles, entre guillemets, pouvaient s'affronter dans les choix méthodologiques, et que certains auteurs pouvaient extraire leur cas incident à partir d'un algorithme strictement basé sur le diagnostic de fracture, sur des codes diagnostiques de fracture du col, tandis que d'autres utilisaient des algorithmes, on va dire, un peu plus restreints, en ajoutant comme filtre les actes chirurgicaux, probablement considérant que la frange de fracture non opérée chirurgicalement était mineure, et que l'acte associé au diagnostic renseignait peut-être mieux sur le caractère incident de la fracture. Donc finalement, face à ces observations, la question qui se pose, c'est il n'y a pas de consensus, pourtant les gens travaillent, et que conclure face aux variabilités qu'on peut observer même au sein d'un même pays selon que les auteurs auront utilisé un algorithme utilisant seulement le diagnostic ou un algorithme utilisant croisant diagnostic et acte. Donc l'objectif de ce travail a été donc de comparer les deux principales méthodes d'identification des séjours, donc à savoir l'algorithme diagnostic versus l'algorithme diagnostic et acte, et par la même occasion essayer d'identifier des variables pour aider à affiner nos algorithmes d'extraction à partir finalement des séjours identifiés comme étant vrais positifs face aux dossiers de séjours correspondant à des faux positifs finalement d'extraction. Donc pour résumer la méthodologie, le choix méthodologique choisi, on peut représenter finalement les séjours extraits par l'algorithme diagnostique par ce rectangle bleu, dans lequel finalement est emboîté l'algorithme diagnostique et acte, et finalement ce qui nous intéresse pour choisir, pour apporter en tout cas des arguments critiques dans le choix de l'un ou de l'autre, on pouvait finalement s'intéresser à la frange de séjour discordant qui était englobée par l'un mais pas par l'autre. Donc les critères d'inclusion ont porté donc sur des patients de plus de 50 ans moins de deux séjours sur la période pour une fracture fermée, en l'occurrence pour effectivement la justification qu'on peut se casser en tout cas les deux cols du fémur de chaque côté, Et voilà, certains critères d'exclusion, comme les néoplasies, tout ce qui pouvait être en rapport avec une prise en charge polytraumatique. Et voilà. Donc finalement, la question après audit, c'était de savoir quelle est la proportion de dossiers positifs et faux positifs et où se situe ce curseur pour nous aider à décider. Donc l'extraction s'est faite donc sur la base PMSI-MCO des Hospices Civils de Lyon sur 4 ans, de 2003 à 2007. Au final, donc notre population cible portait sur 525 RSS, donc la portion rouge de tout à l'heure, donc de diagnostic, mais sans acte. Donc là-dessus, on a échantillonné 200 séjours. Et nous sommes allés auditer avec une grille standardisée ces 200 RSS. Malheureusement, donc on a retrouvé 181 parce que parfois il était difficile de retracer complètement les dossiers. Donc les résultats globaux peuvent être présentés ainsi, à savoir que finalement, sur ces 181 dossiers retrouvés, 70% relevaient de fractures incidentes ostéoporotiques et donc finalement devaient être inclus dans l'estimation de l'incidence, relevaient en tout cas des fractures que l'on cherchait à retrouver. Et donc dans les 30% restants, on retrouvait donc les fractures ostéoporotiques essentiellement représentées par des fractures polytraumatiques, AVP et autres. Des erreurs de codage, avec parfois des fractures d'autres sites, un numérus, je ne sais pas pourquoi, qui était pris pour un fémur, et évidemment des antécédents, ou parfois des diagnostics qui se sont infirmés après dans la prise en charge, initialement aux urgences, et puis finalement dans les 2-3 jours qu'on suivit, probablement que le séjour avait été codé, mais finalement le diagnostic n'a pas été confirmé. Et puis des complications médicales de fractures ostéoporotiques déjà traitées dans d'autres centres hospitaliers, complications type décompensation de BPCO ou autres. Donc ça nous a conduit à constituer ces deux groupes, à savoir les dossiers vrais positifs et les dossiers faux positifs. Et on avait quelques variables permettant éventuellement de discriminer, enfin, de chercher en tout cas à identifier, à affiner nos algorithmes. Et à travers donc les tests statistiques, finalement la vraie variable qui ressort, c'est effectivement pour les fractures ostéoporotiques, on s'y attendait un peu, mais un âge moyen de fracture plus élevé, avec un petit P inférieur à 1 pour 1000. Et quasiment significatif aussi, un site de fracture plutôt cervicale, par opposition aux fractures du massif trochantérien, ce qui était effectivement assez attendu aussi. Donc, en conclusion, donc ce que je disais, l'âge élevé et les fractures cervicales semblent être associés aux fractures ostéoporotiques incidentes. Quand on rapportait la proportion de dossiers vrais positifs à l'extraction initiale, on a pu estimer que finalement l'algorithme diagnostic seul, donc ce rectangle bleu ciel, incluait finalement 4,4% de faux positifs à tort, tandis que finalement l'algorithme diagnostic et acte, qui est aussi très répandu dans la littérature, conduisait finalement à exclure dans cette frange de dossiers 10,4% de dossiers finalement pertinents. Donc de manière un peu abrupte, il semble que l'algorithme le plus simple, donc à savoir se limitant au code diagnostique, fournit l'estimation la plus valide et qu'on n'a pas forcément de raison d'aller être très spécifique sur la sélection. Donc les limites de l'étude, c'est une étude qui a été conduite sur les Hospices Civils de Lyon, même s'il y a différents pôles, on peut quand même dire que c'est une étude unicentrique. L'extraction s'est arrêtée en 2007, donc quelle est l'évolution de la qualité du codage depuis 2008, la part de dossiers avec erreur de codage. On ne peut pas avec cette méthode-là effectivement estimer les caractéristiques intrinsèques des deux algorithmes à la manière du cancer qui bénéficie donc de son gold standard comme les registres. C'est bien le problème du cas des fractures ostéoporotiques, enfin des fractures du col du fémur et du PMSI. Donc en perspective, quelle méthodologie on pourrait envisager par la suite? Finalement, ce serait de demander à des cliniciens et aussi de façon la plus exhaustive possible de procéder à une inclusion prospective de cas sur une période donnée, de façon à finalement déterminer ce qui relève de la fracture ostéoporotique ou non et incidente. Et a posteriori, une fois que cette inclusion a pu être faite, extraire avec indépendamment avec ces deux algorithmes, refaire un échantillonnage, et finalement là, peut-être qu'on arriverait à calculer des sensibilités et spécificités de chacun, et du coup conclure de manière plus claire. Mais bon, en termes de temps et de faisabilité de moyens humains, parce que pour avoir participé activement à l'audit des dossiers, c'est du temps et c'est parfois difficile de retourner à tous les secrétariats de faire retrouver tous ces dossiers. Donc la faisabilité de notre étude est avérée. Ça apporte quelques éléments critiques donc, dans ce choix. Au-delà de ça, ça peut être applicable finalement à tout type d'algorithme, ou en tout cas on se trouve dans une situation de deux algorithmes qu'on pourrait qualifier d'emboîtés, un peu pour faire au modèle statistique, une comparaison au modèle statistique, c'est-à-dire qu'on peut comparer la frange de dossiers discordants, de séjours discordants dans ces cas-là, et puis d'une façon plus globale, effectivement, l'intérêt d'essayer de standardiser nos méthodes d'extraction afin de pouvoir mieux comparer nos données. Je vous remercie.